Je me réveille en sursaut. Sur le plafond passent les éclats de phares des voitures qui tournent sur l'autostrade. Je mets un moment à me souvenir où je suis. Irmina Dingrad. Dans mon rêve, je parlais à Fatou et elle me répondait. Je lui parlais de mes enfants et elle me répondait. Sa voix venait de derrière moi. Et même si tout était normal, très joyeux, je savais dans mon rêve que je ne devais pas me retourner. Que si je cherchais à la regarder, il se passerait quelque chose, un malheur. Fatou était de retour par la voix. Et moi, je lui disais, ces enfants, tu vas les adorer. Ils sont beaux et drôles. Ils sont vivants. Ils me font tellement penser à toi. Après, j'ai tourné la tête. Un tout petit peu. Juste pour l'apercevoir du coin de l'œil. Et j'ai vu le trou. Ce trou qu'ils appellent le parloir aux absents. Il était très sombre et prenait presque toute la cour. Plein de froid et de noir, avec des bords irréguliers, gonflés comme les lèvres d'une plaie. C'est toujours le milieu de la nuit. J'ai peur de me rendormir. Je ne veux pas que le rêve revienne. Les échos de la voix de Fatou s'amenuisent, mais les images restent dans ma tête. Le parloir existe quelque part, je le sais. On m'en a parlé. Je le trouverai.
Au début, il n'y a rien. Que de la boue partout. À la place de la ville, de la boue. À la place des maisons, des rues, des collines, à la place du fleuve Amélès, rien que de la boue. La mer elle-même est faite de boue, noire et molle. Boue à perte de vue, à remplir le monde jusqu'au bord du ciel. Imaginez comme ça colle aux pieds, comme c'est difficile d'avancer là-dedans.
Et voyez Adina qui approche.
Adina.
Attirée par le seul truc qui dépasse dans cette grande étendue.
Attirée par le seul truc qui dépasse dans cette grande étendue.
Ce qui émerge, c'est un genre de margelle en pierre ou bien en vieux béton. Ça se dessine sur un fond de brume jaune. Ça devient de plus en plus grand au fil des jours, de plus en plus haut, à mesure que la toute première des femmes approche. La dalle enserre un puits froid, assez profond et large, pour que la scolopendre y niche. Pour qu'elle puisse s'y déployer, caler ses 42 pattes griffues et sa tête laide aux mandibules tranchantes. Il y a 21 marches pour passer la margelle. Kadina grimpe sans s'essuyer les pieds. Elle tient dans sa main gauche Kaboul, le bouclier du temps, et dans sa main droite brille Bagdad, l'épée de l'étendue. Ses pieds boueux laissent sur chaque marche des traces dégoûtantes. Et quand la première des humaines parvient au bord de l'abîme, quand elle est assez proche pour regarder en bas et rendre aux profondeurs le regard qu'elle lui lance, Adina crie à l'intention du monstre.
« Je suis venu te tuer, afin que ton sang durcisse les poux et qu'il les fertilise, que le solide se sépare du liquide, que le dur se distingue et que le faux se démarque du vrai. Je suis venu te tuer, afin que naisse, croisse et pousse la ville des soissonnés en millions qui n'existe encore en germe qu'au sein des rêves des hommes. Je suis venu te tuer afin que la vie commence. »
Alors la scolopendre monte du cœur de la terre. Elle racle et ponce et gratte les parois du boyau. Elle surgit des ténèbres et se dresse de toute sa hauteur pour frapper Adina de chacune de ses 42 pattes. Mais Adina part chacun des coups à l'aide de Kaboul, le bouclier du temps. Et à chaque fois que la scolopendre révèle dans l'interstice des plaques de chitine ses chairs nues, grises et molles, Adina la frappe à toute force du tranchant de Bagdad, l'épée de l'étendue. Et au terme de tout un jour et de toute une nuit de lutte, la bête est défaite. Voyez-la qui souffre et qui convulse, qui saigne en abondance un sang opaque et blanc, qui se rencogne à rebours jusqu'en son souterrain et qui disparaît lentement au fond de son puits pour y agoniser infiniment. Avant de s'effacer tout à fait, Adina croit entendre la bête lui dire Adina oublie ce qu'elle entend. Elle est occupée à créer un homme avec les dernières boues. Elle s'applique à le faire très beau afin de pouvoir l'aimer.
Elle lui donne pour nom Yirmi lorsqu'il est terminé. Et avec lui et toute leur descendance, elle fait naître à l'embouchure du fleuve Amélès la ville de Yirminadingrad, qui n'a cessé de croître depuis par elle-même. Et les enfants d'Adina oublient la scolopendre enfouie sous leurs pas, la bête d'avant les premiers récits, le monstre qui agonise depuis ce jour, juste sous nos pieds, sans mot dire, et pour l'éternité.
Et
quoi?
C'est tout?
Bah, pour cette histoire-là, oui, c'est tout.
Mais c'est quoi la morale?
Et les trucs, là, la lame de l'étendue, c'est qui l'a? Elle devient quoi?
Ça existe vraiment, les scolopendres? Ça ressemble à quoi?
À des gens de gros mille pattes. Il n'y en a pas par ici. Vous avez fini avec vos bols. Vos parents attendent, je suis sûr que vous avez des devoirs à faire.
On peut prendre encore un biscuit?
Je l'emporte avec toi. Allez, fiche le camp maintenant. J'ai besoin de Ryan, moi aussi.
Bon, allez, dites au revoir à Milena, les enfants.
Salut. Journal de bord. Entrée 47. Nous avons atteint le mouillage le plus proche des ruines de Yirminadingrad ce matin, vers 7h, après une dernière nuit de navigation sans incident. RAS au niveau des manœuvres. Le temps est couvert mais doux. Pas de précipitations en perspective. Les observations de la côte à l'œil sont suffisamment différentes des relevés topo pour rendre ceci presque inutile. La couverture satellitaire est, quant à elle, franchement foireuse. On fera sans. On devine d'ici les premières ruines, sous le couvert végétal. Le temps de rejoindre le rivage et de nous équiper, et nous pourrons commencer l'exploration du site dans la soirée.
Hé, maman, t'as vu les drôles d'oiseaux? On dirait de la fourrure.
J'étais en train de faire le journal, Clem. Tu veux ajouter quelque chose?
J'ai tellement hâte d'aller voir ça de près.
Comme vous pouvez l'entendre, le moral de l'équipe est au beau fixe.
Et c'est bizarre aussi, à quel point rien ne ressemble aux images des archives. On voit pas de tour, on voit pas de voie aérienne, aucune trace de civilisation. C'est frappant de mesurer à quel point le temps écoulé depuis la catastrophe paraît avoir effacé toutes les traces.
Oui, Clem a raison. C'est difficile d'imaginer que des gens aient pu vivre ici un jour. On va se mettre en route. C'était Antonia. Pour le log 47, nous quittons le Saint-Ephrem. Fin d'enregistrement.
C'est juste un gros
mille-pattes. Ouais, un très gros mille-pattes. Là, c'est sûr qu'il va nous falloir une épée.
Pas obligé. On peut détendre pas de bruit si elle dort. En plus, Ryan a dit elle agonise. Et aussi pour l'éternité.
Il faudra quand même des armes. Ou peut-être aussi prévenir les frères.
On en parlera si on découvre que c'est vraiment vrai. T'imagines? Tu sais ce que ça veut dire si la cité dortoir de Perulchef a vraiment été construite au-dessus du puits de la scolopendre?
Ouais, ça veut dire qu'elle nous bouffera en premier quand elle se réveillera.
Pour l'éternité, espèce de débile. Elle peut pas se réveiller. Non. Ça veut dire que c'est ici que tout commence.
Oh, tu vas pas me faire redescendre maintenant, hein. Il est tard et il va faire nuit.
Je peux y aller sans toi si t'as peur.
Si tu fais ça, je te tue. C'est moi qui trouve le puits.
Allez, enfin, vas-y. Je pense à la lacune dans le...
Oh, les pipelettes, encore dans leur messe basse. Viens, tant que t'es debout, passe-moi le paquet de clopes.
Vous devriez pas.
Et toi, tu devrais te calmer sur la propagande religieuse. C'est encore que des gamins, Ryan. Ils ont pas l'âge de se faire brouer le mou avec les histoires de ta secte.
Ah ouais, qu'est-ce que vous voudriez que je leur dise sur Yermina Dingrad? Vous préféreriez que je parle du plan pilote? De la façon dont la commission 21 a choisi l'emplacement et le nom de la colonie? Ils viennent pas pour un cours d'éducation civique, ils veulent juste des histoires.
Mais personne t'oblige à leur parler de la ville. Allez, bouge ton cul, il y a une machine à étendre. Et allume la radio en sortant, tu veux?
De l'avoir intégralement évacué avant la mise en œuvre du couvre-feu ce soir. Les opérations militaro-policières suivent leur cours sur la ceinture extérieure et jusque dans les faubourgs de Noir-Central, de Grovetchov, des cités rouges de Marx et les complexes industriels de Baraïogoï. La chancellerie rappelle à ses administrés que toute personne géolocalisée à l'intérieur du périmètre d'exclusion sera mécaniquement poursuivie pour des délits pouvant aller de l'entorse à la démocratie d'exception, aux troubles à l'ordre public, en passant par la diffusion de fausses informations, l'incitation à l'insurrection, le port de tenues subversives et l'outrage et rébellion. Nos autorités requièrent des parents et tuteurs la plus grande des vigilances et rappellent aux plus fougueux de nos jeunes auditeurs que les forces spéciales recrutent pour de prestigieuses opérations de maintien de l'ordre moral sur terrains extérieurs. Dans les actualités internationales, Rostam Kobo, le directeur général de Micron Incorporated, recevait ce matin l'ambassadeur fédéral au siège social de sa nation. Tous deux ont posé le cadre d'une renégociation des accords sur la propriété foncière dans les périphéries. Le cabinet des relations publiques de Micron Incorporated a déclaré sur les réseaux sociaux, je cite,
cette nouvelle coopération promet une hausse spectaculaire des dividendes dégagés par notre État-entreprise pour les années à venir. Fin de citation. D'après un récent sondage, plus de 60% de la population micronienne, ainsi que l'écrasante majorité des actionnaires, approuvent le leadership de Kobo et son plan rentabilité régional.
Qu'est-ce que tu lis?
Bah, je sais pas trop, c'est un ancien bulletin d'information, je crois. C'est bon, t'as terminé la mise en place?
Ouais, les restes de bouffe sont dans les containers. Mais j'ai planté que 4 siffleurs. Ça devrait suffire à tenir les bêtes à l'écart. Je me demande si ce qu'on dit sur les cerfs est vrai. Entre les rayonnements et l'acidose, ce serait étonnant qu'ils soient devenus si grands que ça.
Pourquoi ils ont tout gardé, à ton avis?
De quoi tu parles?
Les papiers, là, les scripts, les archives, tous ces bouquins et tous ces rapports. Tu crois qu'ils ont vu venir ce qui leur est arrivé? Et qu'ils ont eu peur que tout s'efface et qu'ils ont gardé tout ça pour nous?
Ben, peut-être, ouais. Ou alors c'était juste par égoïsme. Se donner l'impression d'exister. Mais pousse-toi un peu, ma fille.
Alors, enfin un mot de culture avec la finale ce soir du concours transmunicipal de slam de Yermat. Yermina Dingrad. Qui se tiendra au palco et devrait voir s'affronter les poètes les plus incisifs du moment.
Incisifs?
Les compétitions se tiendront dans les trois langues officielles, ainsi pour la première fois cette année qu'en dialecte 17. Cet événement culturel est sponsorisé par Mediaco et la filiale Yerminidi de Green Energetics. Jingle. Prochain journal à minuit sera présenté par Renaud Johnson.
C'est étonnant.
De quoi?
Tous ces noms. On dirait vraiment des trucs inventés. Genre Amazonie, Californie, Atlantide.
Tu crois qu'on y est pour de vrai? Que la Géoloc a retrouvé l'endroit de la ville d'avant?
Il n'y a pas de raison. C'est juste une machine, tu sais.
Mais cette forêt, t'as pas cette impression qu'elle a toujours été là?
Ça pousse vite. Hein. En moins d'un siècle, tout ce qui a été construit peut disparaître.
Non, mais j'ai quand même l'impression que ça coule pas. Yermina Dingrad, c'est pas un endroit pour une forêt.
Ouh, pas de forêt à Yerminadingrad. Pas de sous-bois où bâtir nos cabanes. Pas de ramée pour tisser des nids. Pas de canopée pour se mettre à l'abri. Pas d'ombre verte où vivre heureux, vivre caché. Il n'y a pas de forêt à Yerminadingrad. Mais des arbres jaunes et nus et maigres, poussés tordus des, dans des jardinières de granulés plastiques, des gouttières de pigeons chats et des couverts de bière, mais des buissons décoratifs aux fleurs vives, aux feuilles coupantes et lisses, froides comme des miroirs. Mais des haies de buis ronceux, hérissés comme de barbelés. Chevaux de frise pour villa de Richard. Mais des carrés de crassules grasses qui servent de poubelles, de cendriers, de porte-capotes, de range-canettes, de tasses de pochons, de vie de bouteilles. Il n'y a pas de forêt à Yerminadingrad, mais du bois de sciure aggloméré de colle et des fleurs coupées, congelées, offertes, jetées, et des pinèdes entières, extravagantes, distillées jusqu'à la dernière épine et mêlées à mort au CFC. Un spray de déodorant pour embaumer nos chiottes.
Bonsoir.
Bonsoir madame, ça quelque chose?
Ce que vous voulez, n'importe quoi. C'est vous, Mousse?
Ça à quel propos?
On m'a dit de venir ici. Je cherche le parloir aux absents.
Le parloir?
Non, mais laissez tomber, c'est pas grave, j'ai dû me trouver. Servez-moi une mastica, s'il vous plaît. Vous savez si Mousse va venir?
Le début, c'est le même pour tout le monde. C'est pas important de savoir comment ça commence. Ce qui compte toujours, c'est la façon dont ça se termine.
Bonsoir.
Pour Lazaros, ça a pris des semaines, des mois, ça a bouffé sur son temps d'éveil, ça a envahi son univers, il vivait plus qu'en sursis, la peur au ventre. La nuit, il ne dormait pas. Il arpentait l'appartement, il mangeait, il jouait aux jeux vidéo, il fumait à la fenêtre. Ou encore, il se saoulait, se défonçait pour trouver le sommeil. Dans ces cas-là, il lui arrivait de péter les poings, de faire des choses débiles, de détruire ses affaires, ou bien les miennes, de nous mettre en danger. Il n'y a pas eu de déclencheur, pas de palier. Ça s'est juste dégradé jour après jour. Il a commencé à boire au réveil, à se surdoser en médicaments, et au moment où il est tombé de tout son long, c'était fini. Il était déjà mort quand il a touché le sol. Son cœur avait explosé dans sa poitrine. Quand j'ai pressé pour le massage cardiaque, j'ai soufflé pour essayer de le ranimer. Son sang m'a jailli dans la bouche. C'est la peur qui l'a tué. La terreur de chaque nouveau jour. Et quand il est mort, ce monstre gigantesque a disparu. D'un coup, la peur est partie, comme si elle n'avait jamais été là. Le seul endroit où elle existe encore, c'est dans cette histoire. Il n'y a que les vivants pour la sentir encore, qui leur bouffe le ventre. Lazaros, lui, est passé dans un monde d'indifférence légère, qui ressemble à un bain chaud, qui ressemble à la paix. Et pour vous, c'était qui?
C'était ma grande sœur.
Et elle est morte depuis longtemps?
Depuis toujours. J'avais 6 ans.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Vous buvez quelque chose? Je vous offre un verre.
Vous vous sentez coupable?
C'était pas moi. Je veux juste... Il faut juste que je lui parle.
C'est un voisin de ma mère qui m'avait parlé du parloir aux absents. Ça se passait des années avant que Lazaros parte en couille. J'avais pas fait gaffe à ce que racontait le vieux. J'avais pas grand-chose à dire aux morts à ce moment-là. Chacun sa place, je disais. Chacun les siens et les portes seront bien gardées. Lazaros est tombé et après, ça a duré, duré. Je faisais des rêves, je voyais des choses qui n'étaient pas là.
Je n'avais personne à qui avouer. Les gens me plaignaient, mais ne m'écoutaient pas, alors. Je suis retourné voir le voisin et j'ai suivi ses pistes. J'ai fouillé les ruelles, j'ai passé des coups de fil, j'ai parlé dans le noir et des inconnus qui passent leur nuit assis sur les bancs publics, dans les parcs, sous les autostrades. Il y a toujours des gens qui connaissent des gens. Et j'ai fini par trouver la cité sur la colline, le temple en Y, le puits. Je me suis hissé sur la margelle, je me suis penché par-dessus et j'ai appelé Lazaros par son nom. Lazaros, Lazaros. Tout au fond, dans les ténèbres, quelque chose a remué. Ça faisait des crissements, des ronflements, des souffles. Et puis, sa voix m'a répondu.
Où ça ? Dites-moi où je peux trouver le parloir.
Qu'est-ce qui lui est arrivé à votre sœur ? C'était une rafle ? Une conscription silencieuse. Ça s'est passé pendant le printemps des folles.
Vous n'avez pas le droit de me demander ça. Je vous ai juste demandé un service.
Et moi, je vous ai juste demandé une histoire.
Très beau et très bizarre. On a du mal d'abord à comprendre ce qu'on voit. Ça ressemble aux dessins, plein de petits traits dans les livres de Kipling ou de Jules Verne. Aux gravures saturées de hachures qui représentent des temples dans la jungle. Ou des cavernes aux reliefs effacés par l'obscurité. Tout est comme mousseux, flouté par la végétation. Adouci par les plantes et tremble un peu sous le regard. Les couleurs sont incroyables. C'est vert, c'est brun. Les mouvements à la lisière du champ de vision. Les animaux invisibles qui rampent ou qui trottinent. Et puis les odeurs. Et si on arrête un peu de marcher ? Si on se libère de la peur de se coincer le pied, de tomber dans un trou ? Si on reste assez longtemps sans bouger ? À regarder au même endroit, on commence à voir se dessiner les formes de la ville morte. À distinguer le tracé des rues entre les blocs effondrés, les cours intérieures, les tunnels de métro en voûte crevée. Et puis, derrière encore, totalement tissé d'espèces grimpantes, de lianes, de racines aériennes, on devine les tabliers de ponts de béton, déchirés comme au ralenti par la pousse des arbres. Des alignements de carcasses de voitures, artefacts increvables à demi abolis, sous des strates d'humus. À l'encadrement d'une fenêtre bizarrement intacte, sur la pluie duquel nichent des oiseaux noirs et bleus. Des papillons qui volettent dans les rayons obliques. Oui, c'est une sorte d'Éden superbe et inquiétant. La floraison de notre grand cimetière, la forêt aux 61 millions de morts. Là, l'humanité vivait au temps de son suicide.
Pas mal ? Tu comptes envoyer ça aux vaisseaux spatiaux ?
Ouais, on verra. C'est des notes pour moi, hein, pour l'instant. J'essaie de garder les impressions. Mais si ça finit par former un tout, pourquoi pas ? Il n'y a pas de raison que ces histoires-là ne parviennent pas jusqu'aux colonies futures.
Moi, je trouve pas ça si morbide. C'est même plutôt rassurant. Fallait être très orgueilleux pour se croire assez puissant pour tout détruire.
Beaucoup de choses ont été perdues quand même.
Ouais, j'ai pas l'impression que ça inquiète beaucoup les animaux qui vivent dans les ruines. Les insectes, ils sont fous des histoires des hommes.
D'après les archives, la tour Y comptait plus de 200 étages avant son effondrement. 1 kilomètre de bureaux et d'appartements. Il ne doit pas en rester grand-chose d'autre que le socle.
Le socle ?
Ouais, un maillage de poutrelles antisismiques. Il devrait être encore à peu près en état aujourd'hui. Si je me suis pas ratée avec l'azimut... On est dessus. Ou on l'a juste dépassé.
Attends, c'est pas ce gros truc là devant ? Tu veux dire que ça monte au-dessus des arbres?
Ah, j'espère. On va avoir besoin d'un point de vue pour retrouver le temple. Et au moins, on est sûr que cette structure est assez solide pour grimper dessus. Reste à espérer que le mont des algues n'ait pas trop subi d'érosion et qu'on puisse le repérer à la jumelle.
On pourrait pas faire ça par un drone?
Ça m'étonnerait que la tribu prenne le risque d'en envoyer un jusqu'ici. Et le temps qu'il arrive...
Ok, on dit quoi alors? C'est toi qui monte ou c'est moi?
Je te guiderai depuis le sol, si ça te va. Tu seras nos yeux, hein, à l'ancienne. Tiens, prends la carte aussi. Le tracé des principales autoroutes devrait t'aider à te repérer.
Collines, trois fleuves, un estran immense aux eaux saumâtres. À l'est, la mer, à l'ouest, les terres infertiles bornées par les frontières aux barbelés coupants. Et 6 × 10 + 1 million de femmes, d'hommes, d'enfants, de spectres pour habiter la ville gigantesque, née des boues durcies par le sang de la scolopendre et baptisée du nom de ses fondateurs. Yirmina Dingrad, pour le blond Yirmi et la noire Adina. Le puits sur le monstre est scellé par une stèle gravée, enfermée dans un tumulus, enfoui sous un terril et cachée au cœur d'un morgue. À cette colline sacrée, qui est une tombe immense, on donne le nom de Mont des Algues. On bâtit à son sommet un temple. Des devineresses y rendent des oracles confus, attentives aux échos de la pierre, au murmure de leur propre cœur et au babil d'un monstre pour toujours entre vie et mort. Des centaines de générations s'écoulent. Les cultes anciens sont oubliés. On rase le lieu du culte obsolète et construit à sa place un complexe théâtral, un pas de tir de missile, une usine communautaire de réhabilitation par le travail, un monument à la mémoire des morts des guerres mandelandes-omicroniennes, un camp de rétention pour immigrés tatars, un centre commercial, une piscine ouverte, puis la cité dortoir de Béroul-Chef, avec ses 3 bars immenses en forme de Y. À la rencontre des bâtiments, on installe une chaufferie. Une société privée vient y forer un puits mince et profond afin d'extraire, sous les racines du mont des algues, les bouts tièdes de la géothermie. Alors, la scolopendre, libérée par la foreuse, malgré l'engourdissement et la douleur, déplie dans le boyau tout neuf les 21 segments de son corps éternel. Elle rampe vers la lumière. Elle dit « Alors, alors, encore !» Et dans ses crissements, ses ronflements, dans ses souffles, viennent se tapir pour tous ceux qui entendent les voix vivantes des morts qu'ils ont aimés.
J'aime pas ça. La voix de la scolopendre, elle est vraiment affreuse.
C'est fait exprès, sinon on n'y croirait pas. En même temps, elle cause beaucoup pour un monstre. Elle a autre chose que de la bouche.
Que dis-tu?
La scolopendre. Elle est capable de mordre et de piquer, ou bien c'est que du blabla?
La scolopendre a répandu son sang jusqu'à la dernière goutte pour nourrir et pour durcir la boue. Elle est très dangereuse parce qu'elle est creuse et qu'elle sonne comme un tambour. Parce qu'elle est la caisse d'écho de tous nos désirs et de toutes nos peurs, qu'elle conserve la trace de nos voix éteintes. La scolopendre est l'écho au fond du puits, celui qui parle dans la nuit de nos consciences.
Allez, ça va, Ryan, ça suffit, laisse-les tranquilles.
Alors, il n'y a pas besoin d'épée, pas de bouclier?
Ni épée, ni bouclier, la scolopendre nue. Son murmure contient la somme de toutes nos voix éteintes.
J'ai dit, ça suffit.
Toutes les voix de Yirmina Dingrad.
Trop de gens dans cette ville et ils conduisent de plus en plus mal. T'as à se demander s'ils cherchent pas à se faire tuer. Vous avez un itinéraire favori?
Quoi?
Pour monter à Péruchef, on passe par les passerelles.
Ça m'est égal, faites au plus court.
Vous aimez la musique?
C'est quoi?
Aucune idée. Ça vous plaît?
C'est
C'est la bonne musique pour les jeunes, ça.
Pas la peine de mettre aussi fort.
Alors là, je suis bien d'accord avec vous. Vous avez quoi, 35, 40 ans? Vous avez grandi après la pacification, ça en tout cas, je peux le dire. Ça se voit au premier coup d'œil. Mais que la façon de bouger, de regarder. L'histoire laisse des traces. Tenez-moi, en deux campagnes, j'ai fait presque tous les fronts. Je dis presque, parce que j'étais interné quand ça a bardé dans l'archipel. Du coup, ils m'ont laissé tranquille. Pas que je regrette, notez bien, pas que je regrette, j'ai fait ma part. La rotule, là, c'est du plastoc. Et j'ai l'humérus droit tellement farci de métal que je sonne au passage des portiques. Juste sur le registre militaire. Dans le civil, avec le taxi, j'ai eu 8 accidents. Aucun par ma faute. Tous en ville. J'ai jamais franchi le périph' pour le boulot. 6 nuits sur 7 à zoner. Les autostrades, c'est mon carrousel. 5000 bornes dans le mois, comptez vous-même. Si j'avais tracé droit, ça m'aurait fait 5 tours du monde par an. 68 piges au compteur, 47 de service, comptez vous-même. 4 voyages Terre-Lune. Rigolez pas, ça n'a rien de marrant. Cette distance que j'ai pas parcourue dans l'espace, j'ai tracé dans le temps. Ah, il faut être stupide pour croire qu'il est possible de tourner en rond. Quand on revient au point de départ, le point de départ a disparu. Yamina Dingrad n'a pas de commencement et pas de fin. Je pourrais causer des heures, des visages de cette ville. Je pourrais vous raconter des choses que j'ai vues dans votre quartier, dans votre rue, en bas de chez vous. Et ça vous paraîtrait si étrange que vous croiriez que je les invente. Ah, les courses de chevaux sur l'autoroute, ça vous dit quelque chose? Vous vous souvenez des temps de Kirghiz, Jamova, du petit paradis et du central gris? Mon cerveau est comme un vieux plan de Yamina Dingrad, tout replié et chiffonné. Tiens, vous saviez que le mont des Algues s'appelait le mont des Almes avant? Ou c'était le mont des Aulnes? Moi, je sais pas, en tout cas, il y avait un L. Vous êtes déjà monté là-haut? Vous êtes déjà monté là-haut?
À vous me parlez?
À Perulchef. Vous êtes déjà venu? Vous connaissez des gens? Ben, je peux vous attendre. Mais il faudra pas traîner. Disons 20 minutes, je laisse tourner le compteur.
20 minutes?
Ça devrait suffire pour faire ce que vous avez à faire. Vous venez pour le parloir aux absents, c'est ça?
L'emprise de Perulchef était nettement visible depuis les cimes. Une étoile à trois branches au sommet d'une sorte d'éminence au flanc effondré. Le temple des Almes. Colline jadis raide, jadis cernée de bidonvilles. Notre marche d'approche n'a pas été de tout repos. Le fleuve amêlé, sorti de son lit, s'égare en méandres innombrables. Des arbres aquatiques, type palétuvier, poussent dans le grand marigot. Nous avons dû faire usage à deux reprises de nos siffleurs pour écarter des reptiles curieux. Clem pense que la zone pourrait correspondre au mythique quartier des passerelles. Elle prétend que...
Attends, rien du tout, j'ai vu la statue du Triton comme sur les roches d'actu. Si tu regardais le monde avec tes yeux, là, au lieu de chercher à tout capter tout le temps...
Alors, Clem assure que c'était bien le quartier des passerelles. Nous avons suivi une sonde de mammifères, peut-être des tapirs, pour atteindre le sommet du mont des Algues. On a dressé le camp au pied du bâtiment triple de la cité, dans une sorte de clairière. Perulchef est recouvert d'espèces grimpantes, comme des volubilis endémiques, à fleurs énormes, sans odeur, aux pétales très doux, au toucher. Hein, nous n'avons pas pu résister à la tentation d'entrer.
Ça parle pour toi.
Oui, je n'ai pas pu résister à la tentation d'entrer, bien qu'il ne reste que 2 petites heures de lumière avant la nuit. Nous nous dirigeons à présent vers le point de jonction des trois branches, à l'endroit où la tradition prétend qu'officier les devineresses.
Maman, regarde où tu mets les pieds, s'il te plaît.
Alors, nous sommes entrés par une fenêtre au troisième étage, là où l'humidité avait décelé des parpaings du murage. Comme les issues ont été bouchées avec soin, la quantité d'artefacts intacts à l'intérieur des bâtiments est sidérante. On voudrait tout capter pour retranscrire les images. Tous ces objets, ces outils, ces jouets d'enfants. Les motifs des papiers peints sont incroyables.
Maman, s'il te plaît, tu peux juste essayer d'éclairer devant nous, là.
Le couloir dans lequel nous sommes maintenant engagés débouche sur une vaste cage d'escalier. Si les repérages sont fiables, nous sommes à l'amont direct du puits. Nous allons pouvoir entamer la descente.
Chut. Chut.
Qu'est-ce qu'il y a?
Attends, arrête de parler un instant. Et coupe ce truc, là, s'il te plaît. Maman.
Je vais rester un peu, Madame Milena, si ça ne vous embête pas. Attendre que la pluie s'arrête.
Quand j'étais jeune, j'aimais ça, la pluie à Yermina Dingrad. Ça rassait tout, ça faisait un vernis sur chaque chose. Quand le soleil ressortait, la ville brillait comme si elle était devenue précieuse, comme si elle avait encore en elle quelque chose de beau. Tu te souviens des annonces à la gare centrale ? Camarades voyageurs, bienvenue à Yermina Dingrad, la ville héroïque. Les haut-parleurs qui reprenaient les hymnes. On se sentait exister.
J'étais au berceau à cette époque. Je buvais le lait du rationnement.
Quand il pleuvait comme ça, pendant toute une journée, la terre sous les immeubles se gorgeait d'eau comme une éponge. Les jardinières, les parcs, les tunnels, tout se mettait à sentir. La ville se souvenait sur quel socle elle était bâtie. Du fond du passé, l'humidité remontait.
Les enfants viendront pas aujourd'hui.
Moi, je descendais à la cave. Je collais mon oreille à la dalle de béton sous Pérouchet. Je pouvais entendre par en dessous l'écoulement des eaux, les crissements, les ronflements. Les souffles, c'était une autre époque. J'avais 6 ou 7 ans. Mes jambes me portaient encore. Je pouvais marcher, courir, danser, deviner ce qui remuait sous la peau du monde, comprendre les chuchotements. Puis les réformistes sont arrivés, ils nous ont volé tout ce qui faisait le sel de la vie. Sans parler de la guerre.
Je vous prends une cigarette. Ça devrait plus tarder à s'arrêter.
Il pleut. Allez, viens, on reste. C'est rien, c'est juste une averse.
Si je reviens avec les chaussures trempées, Tata va m'en coller une.
Je sais, t'inquiète. Ça va s'arrêter tout de suite.
Tu sais quoi, on pourrait dire qu'on remet la semaine prochaine.
Bouge pas, je te dis, ça sera tout de suite sinon. Qu'est-ce que c'est ?
Rien, un taxi.
Je vois bien que c'est un taxi, mais qu'est-ce qu'il faut ici ?
Allez, Niobé, s'il te plaît, on laisse tomber pour ce soir. On monte voir Ryan et la
vie. Qui arrive ?
Pardon.
Ça va, on n'est pas des enfants non plus.
C'est ta voiture à toi ? T'as une bourse d'en bas ?
Non, enfin oui, c'est mon taxi, je suis venue avec.
Pourquoi il s'en va pas ?
Qu'est-ce que vous faites là ? Vous attendez quelqu'un ?
Elles sont claires, tes chaussures ? C'est des vraies ?
C'est... Elles te plaisent ? Je peux te les donner si tu veux, j'en ai d'autres.
Tu crois vraiment que je suis aussi conne que ça ?
Ok, les enfants, il me faut de l'aide. Je suis pressée. Je cherche le parloir aux absents.
Le quoi ?
On n'en sait rien.
Le quoi ?
On n'en sait rien de ces trucs-là.
C'est comme un puits, un trou profond et sombre. On peut parler dedans et entendre des réponses. Je sais que c'est là, quelque part. Dites-moi où.
Et pourquoi ça t'intéresserait ?
Ta gueule, Riem.
Il faut, ça fait 30 ans, il faut que je finisse quelque chose.
C'est toi, Adina ?
Oui, c'est moi. Je suis Adina, c'est moi.
Et tu viens achever la scolopendre ?
Ouais, oui, c'est ça. T'as tout compris. Alors il est où ? Il est où, le puits ?
On va lui montrer, hein.
Ok. Ok, mais je garde la lacrymo. Et tu me files tes pompes en partant.
Ok.
Des voix humaines.
tribu qui cherche à nous contacter.
Non. Ça vient d'en bas, Clé. Ça vient de là, tout au fond.
Oh, il y a quelqu'un.
Ne fais pas de bruit, t'es folle.
J'ai entendu des gens qui parlent. Juste là.
C'est comme dans mon rêve.
Comme dans l'histoire de Ryan.
N'approchez pas les enfants.
T'inquiète, la scolopendre est presque morte.
Et puis, t'as des armes, non ?
Quand j'ai appuyé sur les côtes pour le massage, je sais pourquoi je rêvais d'aller dans l'espace. C'est son sang qui m'a jailli dans la bouche. Parce que là où il n'y a pas de bruit, son cœur lui avait explosé dans la poitrine. Les sons ne s'y propagent pas et chacun peut y baigner dans son propre silence.
Fatou ! Fatou ! Est-ce que tu peux m'entendre ?
Ils entrent dans le bar au petit matin, juste avant la fermeture. Ils viennent se coucher au pied des derniers clients. Ceux qui s'envolent devant le dernier matin. Ils sont nus, sales et hirsutes. Ils s'allongent là, la bouche ouverte. Ils se nourrissent de ce qu'ils souhaitent.
Il y a un truc. Il y a un truc énorme qui bouge là-dessous.
Atina, il faut que tu sortes ton épée, ton bouclier.
Est-ce que t'enregistres ? C'est impossible. Nous devrions être les dernières. Il n'y a plus personne ici depuis longtemps.
Fatou, tu m'entends ?
Je ne sais pas ce que ça
fait. Tu sais pas ce que c'est que de puer, passer deux jours dans un endroit avec
crise par les matraques,
de leur parfum des selles, de peau rougie par les matraques.
Attends, t'es comme un programmiste. La puanteur de la peur.
La puanteur de la peur.
Même tes larmes déjà. Pendant les bombardements, il était interdit d'allumer les lumières. On vivait à tâtons. On vivait comme des taupes.
Log 49. À nos sœurs et frères des vaisseaux. Nous avons trouvé le parloir aux absents. Un repli du monde où la parole humaine coagule et se fige. Nous assistons à un phénomène inouï. Une résurgence de voix. La Terre porte encore en elle les traces du passage de notre espèce. Nous sommes encore là. Nous sommes là pour durer.
Pour l'enregistreur, maman, laisse-les écouter par eux-mêmes.
À la fin des temps, la scolopendre ressurgit et les boues se liquéfient à nouveau. Tout redevient indistinct, le sol, la mer, le ciel. tout est confus et noir et collant. À la fin des temps, l'espèce humaine s'enfuit vers les étoiles. Elle embarque dans des vaisseaux spatiaux pour un très long voyage vers d'autres mondes à conquérir et d'autres histoires à raconter. À la fin des temps, ceux qui sont restés sur Terre cessent d'avoir des enfants et s'éteignent paisiblement dans un monde de plus en plus vide de présence et de mots. Certains explorent encore les ruines pour y enregistrer les tout derniers murmures, les échos ténus des voix absentes, capter une dernière trace, lancer vers le ciel un dernier témoignage. Avant que le silence ne se fasse dans ce coin de l'univers, avant que la scolopendre n'étire ses 21 segments sur un monde redevenu indicible, à la fin des temps et la fin du dernier récit de ce monde, peuple de l'espace, de la Terre, un orphelin.
Le parloir aux absents de Léo Henry avec Mathilde Ménétrier, Vladislav Galard, Nathalie Kuznetsov, Rita Merle d'Estremo, Antoine Guy, Florence Janas, Manika Auxir, Nicolas Cartier, Souleymane Silla, Marc Amiot, Fabien Orsier, Christophe Piret, Pauline Diadé, Grégoire Mont-Saint-Jean et Jean-Noël Lefebvre. Bruitage, Sophie Bissante. Conseillère littéraire, Caroline Ouazana. Équipe technique, Bastien Barigaud, Olivier Dupré. Assistante à la réalisation, Laure Chastan. Réalisation, Christophe Hoquet. Remerciements au bar La Lanterne à Montreuil. Thank you.